franceinter.fr.
Bonjour à tous. À la une de ce journal, mieux manger, mais à quel prix? C'est la question qui va guider les états généraux de l'alimentation. Un débat qui doit durer des mois et rassembler tous les acteurs de la filière. Un débat qui s'ouvre aujourd'hui à Bercy, sous le haut patronage de l'Élysée, dont c'était le projet, mais en l'absence du principal intéressé, le président de la République lui-même. Emmanuel Macron, qui préfère sans doute soigner ses troupes, ses soldats très remontés après la démission de leur chef d'état-major hier. Le président est depuis ce matin sur la base aérienne d'Istres, où il doit délivrer un discours très attendu. Nous y serons. Au programme également, les derniers chiffres encourageants de l'ONU sur le sida, avec 1 million de morts en moins dans le monde. La secrétaire d'État à l'égalité homme-femme qui tente de rassurer les associations. La justice américaine doit décider ce soir de libérer ou pas la star du foot américain O.J. Simpson. Du sport avec le Tour de France, la dernière étape de montagne et un dernier espoir pour Romain Bardet. Et en fin de journal, de la littérature pour enfants ou comment sensibiliser les plus petit à la lecture. Un coup d'œil au ciel, Élodie Calac, c'est bien nuageux aujourd'hui.
Oui, on a seulement la Méditerranée qui reste à l'écart avec du soleil, 28 à 31 degrés, de la Gironde et de la Bretagne vers le centre, le nord de la Seine, la Lorraine, là c'est partagé, des éclaircies vont revenir tout de même, mais les nuages resteront un peu plus nombreux entre la région parisienne et la frontière belge, parfois avec une averse. On attend 18 degrés seulement à Cherbourg, 22 à Nantes, 23 à Lille, Paris et Bordeaux. Dans le sud-ouest, là ça reste plus encombré avec quelques pluie possible, un orage en montagne, 21 degrés à Biarritz, 24 à Montauban et puis du massif central et des Alpes à l'Alsace. Un temps instable avec des averses et des orages pour cet après-midi et 25 à 29 degrés.
Un mot pour demain.
Encore des orages sur les Pyrénées, du massif central au flanc est également. Une nouvelle dégradation pour le nord-ouest avec des averses, des orages pour la Bretagne et puis ailleurs des éclaircies. Ce sera encore frais dans le sud-ouest mais on se rapprochera des valeurs de saison au nord.
Merci Élodie, bienvenue dans le journal de 13h. Comment mieux manger plus sainement et comment manger au juste prix afin que tout le monde s'y retrouve, agriculteurs, grandes surfaces, consommateurs. Voilà l'enjeu des états généraux de l'alimentation qui viennent donc de s'ouvrir ce matin à Bercy. Un rendez-vous très attendu, une sorte de Grenelle de l'alimentation promis par le chef de l'État. Ces états généraux vont durer pendant 5 mois avec 14 ateliers de discussion qui commenceront à la fin du mois d'août, réunissant donc tous les acteurs du monde agricole, de l'agroalimentaire ou des ONG. Et pour la journée de lancement officielle, aujourd'hui 600 invités au total, mais de grands absents, Clara Lecoq-Réal, et au premier rang desquels le président lui-même.
Oui, Emmanuel Macron devait en effet clore cette journée symbolique en fin d'après-midi. Il ne sera finalement pas là. Souci de calendrier, dit-on à l'Élysée. Même excuse pour 2 des 4 ministres conviés après Agnès Buzyn à la Santé et Bruno Le Maire à l'Économie, absent donc. Pourtant, le gouvernement voulait donner le cap de cette discussion. Alors, elle a tout de même été ouverte ce matin par le Premier ministre, Édouard Philippe, réaliste.
Je pense que nous pouvons nous accorder sur le fait que notre efficacité collective laisse à désirer. Je pense donc que nous devons nous réorganiser. C'est un pari, le pari de la bonne foi, de l'absence de préjugés. Nous devons le tenter dans le cadre de ces états généraux.
S'organiser pour d'abord partager la valeur de façon équitable, avec un juste prix aux producteurs. La Confédération paysanne, par la voix de Laurent Pinatel, demande un encadrement législatif.
Il nous semble que l'incantation, elle suffit plus. Hein. Si on prend la filière laitière, Emmanuel Beignet qui prend la majeure partie du gâteau pour lui, c'est pas parce qu'on aura fait les états généraux qu'il va dire « Ah bah oui, c'est vrai, il faudra que je partage un peu ». Non, il faudra finir par une loi.
Sur le banc des accusés, donc, vous l'avez compris, la Fédération du commerce et de la distribution, Jacques Cressel, son délégué général, veut y voir un autre problème.
Le sujet, ça n'est pas de répartir les marges. Le sujet, c'est de faire en sorte de créer de la valeur. Aujourd'hui, le porc bio, il est payé 3,50 € du kilo au producteur, alors que le porc non bio est payé 1,60 €. Pour autant, la France importe 80% du porc bio parce que les producteurs français ne le produisent pas suffisamment.
Ces principaux acteurs sont en ce moment même en plein débat, donc à Bercy, avec à leur côté des associations de consommateurs et écologistes. Mieux produire, oui, disent-ils, mais sans flamber des prix et surtout pour mieux manger.
Clara Lecoq-Réal en direct avec Jean-André Giannichini pour les moyens techniques. Notre invité dans ce journal, à vos côtés justement, Clara, Philippe Chalmin, président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires. On va parler avec vous du premier... Bonjour déjà.
Bonjour.
On va parler avec vous du premier chantier de ces états généraux, le chantier économique. On en parlait à l'instant, comment mieux répartir la valeur entre tous les acteurs de la filière de l'alimentation. Commençons par le diagnostic. Ça fait 5 ans en fait que tout le monde se fait un peu la guerre des prix, une guerre qui finalement affaiblit tous les acteurs, c'est ça ?
Oui, sur nombre de filières, que ce soit les producteurs, que ce soit les industriels, que ce soit les distributeurs, peinent à dégager des marges positives. Et en fait, le problème, il est celui d'un amont, c'est-à-dire des prix agricoles qui sont instables, puisque ce sont non seulement les prix français, européens, mais de plus en plus mondiaux, et puis d'un aval, les prix alimentaires, ce que nous payons, nous les consommateurs, qui sont très stables, voire même en léger déclin. Le problème, c'est que l'amortissement entre l'instabilité de l'amont et la grande stabilité de l'aval, eh bien, ce sont ces guerres de prix auxquelles se livrent industriels et distributeurs et qui pourrissent l'ambiance au sein des filières agroalimentaires.
Et qui pourrissent notamment la vie des agriculteurs. Je rappelle leur niveau de vie en 2016, 350 euros par mois, le taux le plus bas, le revenu le plus bas de l'histoire. Alors comment est-ce qu'on sort de cette course au prix bas et comment surtout donc on permet aux agriculteurs de gagner décemment leur vie? Est-ce que c'est aux industriels, aux distributeurs seulement d'enterrer l'âge de guerre?
Alors il peut y avoir de cela. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions. La grande révolution de ces 10 dernières années, c'est la fin de la politique agricole commune. Pendant longtemps, les prix agricoles étaient des prix administrés, décidés à Bruxelles, et qui arrivaient à peu près à rémunérer l'acte de production agricole. Aujourd'hui, nous avons des prix qui sont des prix internationaux, qui sont liés à tous les aléas de l'offre et de la demande au niveau mondial. Alors, il y a certes des aides directes, mais elles sont de plus en plus contraintes par le verdissement de la PAC. Et donc, c'est vrai, le monde agricole, surtout sur une année comme 2016-2017, il souffre terriblement, que ce soit pour les céréales, que ce soit pour le lait, que ce soit pour la viande bovine. Bon, il se trouve qu'actuellement, les éleveurs de porc ont plutôt le sourire grâce à la demande chinoise. Est-ce que cela durera? Mais on a un véritable problème. Et dans cette revendication des agriculteurs de dire ce qui est légitime, je veux un prix rémunérateur, je veux un juste prix, l'économiste que je suis n'a pas dans sa malle à outils de réponse, si ce n'est quand même de parvenir à une plus grande contractualisation tout au long des filières. Une grande partie de nos produits sont des produits qui ne sont pas exportés. Et on peut imaginer à ce niveau-là avoir des contrats, avoir des relations plus directes dans un monde agroalimentaire dont la confiance n'est quand même pas la qualité principale.
Est-ce qu'on peut pas envisager aussi de faire payer plus le consommateur, une hausse des prix dans les rayons? Il est prêt visiblement à payer plus cher pour des meilleurs produits bio, locaux, naturels.
C'est possible dans certains cas, et on le voit bien, dès qu'il est possible d'identifier un produit par son terroir, d'identifier un produit par sa qualité, mais n'oubliez pas que le principe d'une niche est qu'elle ne doit pas être trop importante, parce qu'à ce moment-là, ça n'est plus totalement une niche. Et donc, malheureusement, il faut prendre en compte le fait que nous sommes non seulement sur la scène française, mais sur la scène européenne, et même sur la scène mondiale. Alors, parfois, ceci a de bonnes conséquences. La remontée des prix du porc, elle a été largement liée à la demande chinoise. Et malheureusement, c'est la demande chinoise qui, par sa baisse récente, a posé un certain nombre de problèmes à la filière laitière. Le circuit court peut être une solution, mais il ne peut pas être la solution.
Philippe Chalmin, merci beaucoup. Président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires, merci d'avoir accepté notre invitation dans le 13h, les états généraux de l'alimentation, à retrouver sur franceinter.fr. L'opération Reconquête et Réconciliation a commencé 24 heures après la tempête déclenchée par la démission du chef d'état-major des armées. Emmanuel Macron est depuis ce matin aux côtés des militaires français sur la base aérienne d'Istres. Le président est accompagné de son nouveau chef d'état-major, le colonel François Lecointre. Le chef de l'État doit prendre la parole à la mi-journée. Il va falloir trouver les mots pour apaiser les esprits et retrouver la confiance de ses soldats. En attendant ce moment de vérité, passage en revue des troupes sous l'œil et le micro de Marie-Julie Lecomte.
À Istres, Emmanuel Macron est pour la première fois aux côtés de son nouveau chef d'état-major des armées.
Monsieur le Président de la République, les honneurs vous ont été rendus par deux sections de la base aérienne 125.
Discipline et protocole pour le passage en vue des troupes, c'est Emmanuel Macron trois pas devant, Florence Parly, la ministre des Armées, derrière, le général ensuite. Sur la piste de la base, on présente au président hommes et matériels. Il s'applique à saluer chacun, il écoute plus qu'il ne parle, pose des questions.
En termes d'effectifs, Toto, quelle est la structure ?
Le président sourit, beaucoup, mais c'est sa marque de fabrique, et tout se passe comme si de rien n'était.
Enchanté.
Secret défense oblige, la séquence de présentation précise des moyens de dissuasion nucléaire s'est faite sans presse. Tout à l'heure, Emmanuel Macron s'adressera aux troupes. Il devrait leur répéter sans évoquer directement la crise qu'il soutient son armée, que l'État est pleinement engagé et qu'il maintient l'objectif d'un budget de l'armée à 2% du PIB à l'horizon 2025. Il rentrera ensuite à Paris dans un ravitailleur C-135, un modèle des années 60 pour assister à un exercice en vol. Sauf que c'est un peu l'équivalent d'une deux chevaux, plaisante un officier sous couvert de l'anonymat. Cela vole toujours, mais cela coûte cher à l'entretien.
Julie-Marie Lecomte sur la base d'Istres avec les moyens techniques de Christophe Papon. Les associations de défense des droits des femmes, elles, restent vent debout depuis plusieurs jours. Au vu des restrictions budgétaires imposées à tous les ministères, on l'a vu, elles s'inquiètent d'une baisse possible de leurs subventions. Un document officiel laisse même entendre que la baisse serait de 7,5 millions d'euros pour cette année, 25% du budget du secrétariat d'État à l'égalité hommes-femmes. Égalité, dont le candidat Macron entendait faire une cause nationale. Ce chiffre est contesté ce matin par la secrétaire d'État en personne, Marlène Schiappa.
Un certain nombre de chiffres sont sortis dans la presse qui sont des chiffres dont je n'ai pas connaissance. Ce ne sont pas des documents qui sont sortis à part celui dont nous avons authentifié la réalité. Donc j'ai amené une copie qui est une note de cadrage budgétaire que j'ai signée moi-même, qui est une vraie note de cadrage. Le reste ne sont pas des documents qui ont été portés à ma connaissance et ce sont des documents vraisemblablement, d'après ce que j'en ai compris, de travail. Il ne s'agit pas de documents pour l'instant actés. Le budget global, il est en cours de construction. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une demande d'économie qui a été formulée par le ministre de l'Action et des Comptes Publics à la demande du Premier ministre dans tous les ministères. Il faut penser non pas en division mais en addition et penser au-delà des calculs que nous avons eu l'habitude de faire avec le budget propre du secrétariat d'État, mais également les budgets de Matignon qui sont rattachés, les budgets de l'Élysée et les budgets de l'ensemble des ministères qui apportent de l'abondement sur ces sujets.
Marlène Schiappa au micro d'Edouard Marguillet. La France insoumise va pouvoir revenir au Palais Bourbon en bras de chemise. Le bureau de l'Assemblée nationale a officiellement acté le droit pour les députés de siéger sans veste ni cravate. C'est une discrimination majeure à laquelle la ministre de la Santé Agnès Buzyn vient de mettre fin à l'égard des homosexuels depuis 1998. En effet, les personnes porteuses du virus du sida ou d'une hépatite ne pouvaient pas bénéficier des soins funéraire de conservation, une interdiction désormais levée par un décret signé ce matin. La lutte contre le sida dans le monde semble avoir franchi un cap, mais le chemin reste encore long avant de juguler l'épidémie. Voilà en résumé les dernières conclusions du rapport annuel de l'ONU Sida. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
Dans le détail, ça veut dire moins de morts liées à la maladie et plus de gens accédant au traitement.
Oui, car les deux sont forcément liés. En 2016, si on déplore encore 1 million de décès liés au sida, c'est quasiment moitié moins qu'en 2005, qui était l'année où le pic des morts a été le plus important. Et c'est grâce au traitement, bien sûr. 53% des personnes porteuses du virus ont désormais accès au traitement, ce qui représente 20 millions de séropositifs. C'est donc plus de la moitié des personnes touchées et c'est un tournant important. Alors voilà pour les bonnes nouvelles, il y en a forcément de moins bonnes. Encore 1 800 000 contaminations par an et des régions où l'épidémie de sida flambe, l'Europe de l'Est, en particulier la Russie, ce qui n'est pas étonnant puisqu'on est dans une négation de l'épidémie et une répression des homosexuels. Alors que débute dimanche à Paris une grande conférence scientifique internationale sur le sida, l'objectif est, d'ici 2020, de parvenir à 90% de personnes diagnostiquées, 90% traitées et 90% avec une charge virale indétectable. C'est la clé de l'arrêt peut-être un jour de cette épidémie, car on ne le sait pas encore assez, mais une personne sous traitement n'est pas guérie, mais sa quantité de virus dans l'organisme est si faible qu'elle n'est plus contaminante.
Daniel Messager, spécialiste santé à France Inter.
France Inter, Sébastien Logigny.
En économie, Air France dévoile le nom de sa nouvelle compagnie aérienne à coût réduit. Elle s'appellera June. Sa création a été actée par les pilotes cette semaine. Les destinations et les tarifs de June seront annoncés en septembre. Le fameux plan Hollande pour faire baisser le chômage, le plan formation qui concerne 500 000 personnes, n'a pas l'air de donner de très bons résultats. Pôle emploi a constaté une baisse sensible des taux d'accès à l'emploi après une formation. À peine 55% des bénéficiaires ont accédé à un emploi et un peu plus de 28% à un emploi durable. Être viré sur un simple coup de fil, c'est possible chez nos voisins belges. Autrement dit, des licenciements sur boîte vocale. C'est ce qui est arrivé à 5 des 14 salariés licenciés par Luminus, la filiale d'EDF en Belgique à la fin du mois de juin. Aujourd'hui, son directeur général doit exprimer ses regrets lors d'un conseil d'entreprise. Boris Théier.
Les regrets, les excuses de Grégoire Dalmagne, le directeur général de Luminus, Didier Niquez, secrétaire fédéral du syndicat Gazelco, n'en a rien à faire.
Ce petit monsieur a peut-être pour l'instant les dessous de bras qui chatouillent, mais enfin ça, c'est son problème, ce n'est plus le mien. Exprimer des regrets, vous savez, c'est comme un enfant qui a fait une bêtise, qui ne recommencera plus. On lui tape sur les mains, mais ça, c'est trop facile. C'est honteux, il n'y a pas d'autre terme.
À Luminus, la filiale d'EDF à Liège, les salariés sont écœurés. Apprendre un licenciement par message vocal serait impossible en France, mais ce n'est pas interdit dans certains cas de figure en Belgique. Philippe Devruff est avocat spécialisé dans le droit du travail.
Ce genre de licenciement, en fait, n'est pas soumis à des formalités particulières. Il peut se faire de manière orale, il peut se faire par un courrier recommandé qu'on envoie à l'employé. Donc là, en fait, il y a une espèce de totale liberté en ce qui concerne les procédures à suivre. Juridiquement, il n'y a pas de maladresse au sens strict. Bien sûr, en termes de ressources humaines, communication, etc., sans doute que là, on pourrait parler peut-être d'une maladresse.
Luminus s'est bien excusé début juillet en expliquant qu'elle ne voulait pas que ses salariés soient informés par une autre voie. Mais les syndicats continuent de lui reprocher des méthodes de voyous. Ils craignent encore une centaine d'autres licenciements.
Boris Théier. Les activités financières frauduleuses ou dans un but terroriste sont beaucoup mieux signalées. L'activité de Tracfin n'a jamais été aussi importante qu'en 2016, créée en 1990. Cette cellule anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme a reçu près de 65 000 signalements suspects l'an dernier. C'est plus 43% en un an. À l'étranger, à surveiller aujourd'hui cet appel de l'opposition vénézuélienne à une grève générale. L'opposition qui espère bloquer le pays et voir le président Maduro abandonner enfin son projet de réforme constitutionnelle. Aux États-Unis, cela fait 6 mois jour pour jour que Donald Trump a été élu. Aujourd'hui, un électeur sur 8 ne voterait plus pour lui. Résultat d'un sondage Ipsos. Et puis on a appris cette nuit que le fils Trump, Donald Jr., sera entendu la semaine prochaine au Sénat dans l'affaire de l'ingérence russe à la présidentielle. Toujours aux États-Unis, un nouvel épisode dans la saga judiciaire O.J. Simpson et peut-être même l'épilogue. L'ancien joueur de foot américain est depuis 9 ans derrière les barreaux, non pas pour le meurtre mystérieux de sa compagne dont il a été acquitté, mais pour un vol à main armée. Il fera aujourd'hui une demande de libération conditionnelle et les juges pourraient bien le remettre en liberté dans quelques mois. L'audience, en tout cas, passionne les Américains. À Washington, Philippe Randé.
240 journalistes accrédités, une diffusion de l'audience en direct à la télévision. O.J. Simpson a beau être en prison depuis 9 ans, l'ancienne star du football américain attire toujours autant les caméras. Âgé de 70 ans, il a été condamné en octobre 2008 à une peine de 9 à 33 ans de prison pour vol à main armée dans un hôtel casino de Las Vegas. L'enjeu de la comparution aujourd'hui est clair. La commission pourrait annoncer dès ce soir qu'O.J. Simpson sera libre le 1er octobre. La fascination ici autour de ce sportif devenu acteur reste immense. La série O.J. Made in America qui lui a été consacrée vient de recevoir l'Oscar du meilleur documentaire. Elle retrace évidemment son procès à grand spectacle après le meurtre de son ex-femme en 1994. Procès qui avait été retransmis en direct pendant 9 mois avant qu'il soit acquitté. L'audience d'aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec ce meurtre, s'annonce donc comme un énième épisode dans la saga médiatico-judiciaire O.J. Simpson. Washington, Philippe Randé, France Inter.
Comment donner le goût de la lecture aux tout-petits? C'est l'objectif de la grande fête littéraire de Partir en livre. Ilana Moriousef a assisté au lancement de cette 3e édition.
Parfois, Harry Potter, il me fait peur. Il va toujours là où il ne devrait pas aller, c'est très dangereux.
On était sous la pluie, mais qu'importe, le spectacle en plein air a quand même eu lieu. Et sous des tentes, on a plié, découpé, colorié.
Maintenant, on fait le carré. Voilà, et on plie doucement. Très bien.
Des animateurs, des mamans, des papas, des mamies, tout le monde s'y met.
Adrien, il aime beaucoup faire des travaux. Il aime découper, il aime colorier. Alors, il est venu avec mamie. Elle est en vacances chez mamie.
Moi, j'ai dessiné ça.
L'objectif est d'amener les enfants à la lecture par le jeu. Sylvie Vassallo, la programmatrice du parc.
Il y a un jardin de papier qui est imaginé par cet illustrateur. Des petits pliages, des collages, des origamis pour faire des escargots, pour faire des petits insectes, pour faire des arbustes, pour faire des oiseaux et des nichoirs. Et en fait, les enfants vont faire ces pliages et ces coloriages et vont venir les installer ensemble ici dans le jardin. Et partout, il y a des arrosoirs de lecture audio, de la lecture vidéo.
Qu'est-ce que c'est un arrosoir de lecture ?
Un arrosoir de lecture, c'est un immense espace avec des animateurs à l'intérieur, des poufs et des livres. Et on va arroser les enfants d'histoire, c'est-à-dire qu'on va leur lire des histoires pour qu'ils grandissent.
Le parc d'attractions littéraires restera ouvert 6 jours.
Partir en livre, c'est 3000 événements programmés à travers la France jusqu'au 30 juillet. Un sujet d'Ilana Moriousef. Direction le Tour de France. Allez, on y croit encore un peu. À 3 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, c'est aujourd'hui ou jamais que Romain Bardet doit attaquer s'il veut reprendre le maillot jaune à Christopher Froome. Dernière étape de montagne dans les Alpes. Le départ a été donné il y a 20 minutes environ. Fanny Lechevestrier, et ça s'annonce assez tendu pour notre héros national.
Et oui, c'est vrai que vous l'avez dit, c'est maintenant ou jamais qu'il faut essayer d'attaquer Chris Froome. C'est l'ultime chance, hein, tout simplement, on va pas se mentir, pour Romain Bardet, troisième du général, de tenter de déloger le maillot jaune bien installé à l'avant avec 27 secondes d'avance sur le Français. Ça s'annonce très compliqué, mais pourquoi pas, il faut y croire, vous l'avez dit aussi, jusqu'au bout. On a tout d'abord le col de Vars au kilomètre 97 qui pourrait permettre de faire déjà un premier écrémage par là. Arrière, c'est une belle montée, hein, 1000 mètres de dénivelé tout de même à gravir. Et puis ensuite, eh bien, il y a bien sûr la fameuse montée vers le sommet de l'Izoard, un monument vraiment du cyclisme, 14 km d'ascension dans un paysage lunaire avec un sommet à 2360 mètres. Et oui, là, on attend une attaque de Romain Bardet. Après, on l'a vu hier, il a tenté d'attaquer et malheureusement, Chris Froome est resté jusqu'au bout dans sa roue. Est-ce qu'il va pouvoir faire la différence aujourd'hui ? Eh bien, c'est ce qu'on va vivre aujourd'hui en votre compagnie.
Fanny Lechevestrier en direct du Tour avec la moto de Marcos Darras. Ce dernier mot pour vous remercier une fois de plus d'être aussi nombreux à nous écouter, à écouter France Inter, record d'audience encore pour les mois de mai et de juin avec 11,1% d'audience. Inter gagne 260 000 auditeurs et reste la deuxième radio de France. Ça valait bien un grand merci.